sur un thème qui ne pouvait tomber mieux, puisque nous allons parler de la réforme des retraites. Et vous avez probablement lu ou entendu ce matin que cette réforme, la loi, le texte de loi a été jugé conforme hier par le Conseil constitutionnel et a été promulgué ce matin au Journal officiel. Donc la réforme des retraites est désormais derrière nous pour 2010. La loi maintenant s'applique. Nous allons pouvoir rentrer de plein pied dans la thématique du jour qui est réforme des retraites, suite ou fin. Le débat n'est pas clos, en témoigne encore récemment sur Telos, le think tank internet, un papier d'un directeur de recherche de l'Institut for Fiscal Studies, Antoine Bozio. Retraite de points, la vraie réforme reste à faire. Selon lui, si l'on doit donner crédit au gouvernement de s'être attaqué à un problème aussi controversé que celui des retraites, il est difficile de ne pas s'inquiéter du bilan de cette réforme. La soutenabilité financière n'a été garantie que pour quelques années. Il n'y a pas eu de discussion des mesures à prendre dans 8 ans et au-delà. Un jugement probablement sévère si on regarde du côté des finances publiques, parce qu'il y avait une véritable urgence. Juste un chiffre qu'il faudrait que vous gardiez en tête pour toute la séance de ce matin. Le déficit du régime des retraites était prévu autour de 42 milliards pour 2018. Le projet de loi et la loi permet a priori, si la croissance est au rendez-vous, de résorber une grande partie de ce déficit. Mais effectivement, au-delà, la question reste entière. Pour nous éclairer aujourd'hui, je suis entouré de 4 spécialistes de ce sujet, aux horizons très différents. À ma droite, Valérie Descac, vous êtes secrétaire nationale de la CFDT, chargée de la coordination des politiques de protection sociale, de la politique de la santé, de la famille et de la dépendance. Vous avez fait toute votre carrière dans la banque. Vous étiez notamment secrétaire générale de la fédération CFDT Banque. À votre droite, Dominique Libaud, qui est depuis 2002 directeur de la Sécurité sociale, directeur général de la Sécurité sociale. Vous avez réalisé l'essentiel de votre carrière. Vous avez donc été l'un des acteurs, au moins du point de vue technique, de la loi de 2010. Et vous avez aussi participé à toutes les précédentes réformes des retraites dans les années 2000. À ma gauche, Jean-Michel Charpin, inspecteur général des finances, ancien commissaire au plan, ancien directeur général de l'INSEE. Vous connaissez bien aussi la question des retraites, à la fois parce que vous êtes membre du Conseil d'orientation des retraites, dont le rapport publié mi-avril a servi de base à la réforme de 2010, mais aussi parce que vous aviez déjà rédigé en 1999 un rapport remis à Matignon, l'avenir de nos retraites. À votre gauche, Jean-Olivier Hérault, professeur à Paris 1 et à l'École d'économie de Paris, spécialiste des retraites, mais aussi des questions d'emploi. Deux ouvrages parmi les nombreuses publications de Jean-Olivier Hérault, Pour une retraite choisie, publié au CPREMAP, et vous avez aussi été le co-auteur d'un rapport pour le Centre d'analyse économique sur les seniors et l'emploi en France. Vous nous parlerez de l'emploi des seniors. Je me tourne immédiatement vers vous, Jean-Michel Charpin, pour que vous nous expliquiez un petit peu, selon vous, quel est maintenant l'avenir des retraites en France.
Merci, bonjour à tous. Il est vrai que notre débat de ce matin se passe à un moment très particulier avec la sortie au Journal officiel de ce matin de la loi de 2010. Et aujourd'hui, donc, nous allons à la fois un peu parler de cette réforme qui vient de se dérouler, parce qu'elle est toute récente, mais surtout essayer de dessiner les étapes à venir. L'étape qu'on vient de franchir, en effet, s'ajoutait à des étapes précédentes, il faut en rappeler certaines, très importantes. La loi Fillon de 2003, avait introduit pas mal de changements importants, mais je veux surtout en rappeler deux. Premièrement, elle avait posé le principe de la proportionnalité de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier de la retraite à taux plein à l'espérance de vie de la cohorte au moment du départ en retraite. Et on voit instantanément que c'est une règle, un principe extrêmement puissant qui permet d'accompagner l'augmentation de l'espérance de vie avec un partage constant de la vie adulte entre la retraite et le travail. Et deuxième changement important introduit par la loi Fillon, avec des systèmes de décote et de surcote, la loi Fillon avait fait en sorte que, à la marge, les barèmes soient, comme disent les économistes, actuariels, c'est-à-dire que la liberté de décision de la personne concernée ne change rien au flux financier entre le retraité et son régime de retraite. C'est-à-dire si la personne décide de décaler d'un an son départ en retraite, eh bien la baisse de la retraite que ça induit pour elle compense exactement sur le plan financier l'avantage qu'il y a eu à partir plus tôt. Depuis la loi Fillon, il y a eu la réforme de 2007 qui a étendu les changements aux régimes spéciaux et la loi de 2010, donc au journal officiel de ce matin, qui a principalement décalé les bornes d'âge. Je veux dire, parce que ça me paraît important, que l'addition de toutes les réformes précédentes a eu des effets significatifs. Si on prend l'indicateur le plus pertinent, qui est à mon avis le taux d'emploi des seniors, qu'on regarde la tranche d'âge 55-60 ans ou la tranche d'âge 60-65 ans, ces taux d'emploi des seniors, dans les comparaisons internationales en France, restent relativement bas, mais il faut voir qu'on vient de très loin. Et donc l'augmentation depuis 10 ans de ces taux d'emploi des seniors a en fait été très forte, alors même que ça portait sur des cohortes aux effectifs très nombreux, ce qui fait par exemple que l'emploi des seniors, même pendant toute la récession, n'a cessé d'augmenter. Pour citer un chiffre précis, en essayant de ne pas en citer trop, en 2009, le taux d'emploi en France dans la génération des 60-65 ans, c'était 17%. Bon, 17%, ça peut paraître relativement bas par rapport à un certain nombre d'autres pays, mais il y a 10 ans, c'était 10%. Donc être passé en 10 ans de 10 à 17%, c'est une augmentation qui, sans être éblouissante, l'Allemagne a fait mieux, et est quand même tout à fait significative. À mon sens, il y aura d'autres étapes de la réforme des retraites. D'abord parce que c'est dans la nature du problème des retraites. D'où vient fondamentalement le problème de retraite ? Il vient de la dégradation accélérée pendant une trentaine d'années, grosso modo entre 2005 et 2035, des ratios démographiques, c'est-à-dire du ratio du nombre d'actifs par inactif, ce mouvement étant lié au cumul de deux évolutions. Premièrement, l'augmentation de l'espérance de vie, qui reste très forte, même si on a annoncé plusieurs fois un possible ralentissement. En fait, pour l'instant, elle reste très forte, il faut s'en réjouir, et qui se cumule avec le départ à la retraite des générations nombreuses du baby-boom. Et chaque année, entre 2005 et 2035, il y a une dégradation supplémentaire des ratios démographiques. En 2035 environ, ça s'arrête, parce que en 2035, les générations nombreuses seront en train de disparaître. C'est triste pour elles. Et par contre, les générations qui vont venir alimenter la population des retraités, qui sont des générations, disons, postérieures à 73-74, sont des générations moins nombreuses. Et donc, on va rentrer à partir de 2035 dans une période où ce mouvement va en large partie compenser la poursuite probable de l'augmentation de l'espérance de vie. Ce qui fait qu'ensuite, entre 2035 et 2065, à peu près, les ratios démographiques vont rester à peu près constants. Mais donc, jusqu'en 2035, il y a chaque année une dégradation supplémentaire des ratios démographiques. Et ça fait long, quoi. On est en 2010, ça veut dire qu'il y a encore 25 ans de gestion de ce problème, avec tout ce qui peut se passer, les à-coups conjoncturels, comme la récession qu'on vient de traverser en 2008-2009, les erreurs de prévision qui peuvent exister, les changements démographiques, parce que ni la mortalité ni la fécondité ne sont des données absolument connues d'avance, mais même si on fait moins d'erreurs là-dessus que sur le reste. Et donc c'est normal qu'il y ait un pilotage continu d'un problème qui se pose sur la longue durée. C'est pas seulement qui se pose, c'est qui s'aggrave chaque année pendant encore 25 ans. Au-delà de cette raison générale, il y a plusieurs raisons circonstancielles, et je vais en citer au moins trois, qui font que ça restera à l'agenda. Premièrement, certaines forces politiques annoncent, en cas d'alternance, une possible remise en cause de la loi qui vient d'être votée cette année. Donc c'est une donnée dans le paysage, c'est pas une donnée pour le gouvernement, c'est pas une donnée pour l'administration, c'est pas une donnée pour le Parlement, mais par contre pour les partenaires sociaux ou pour les économistes, c'est évidemment une donnée à prendre en compte. Deuxièmement, la loi de 2010 a prévu, entre guillemets, une réflexion nationale à partir de début 2013 sur une possible réforme systémique animée par le comité de pilotage des régimes de retraite et alimentée par un rapport préalable du Conseil d'orientation des retraites. Ce qui veut dire donc que dès le début 2013, il y aura d'une certaine façon une réouverture du débat social. Et la loi de 2010 a prévu en tout état de cause un rendez-vous ensuite pour préparer l'après-2018, puisque la loi qui a été votée équilibre les comptes à cet horizon. Dans le passé, le pilotage des réformes de retraite a été en France plutôt hésitant, ce qui a eu des inconvénients importants. En 2000, il y avait eu une bonne initiative qui avait été la création du Conseil d'orientation des retraites, qui avait été confirmée par la loi Fillon de 2003, et que ce conseil a joué un rôle utile d'expertise et d'espace de discussion, notamment entre les experts et les partenaires sociaux, qui a plutôt bien marché. On n'en est pas tout à fait au diagnostic partagé, mais pas très loin. Par exemple, les prévisions du Conseil d'orientation des retraites du Corps qui ont été publiées en avril 2010, finalement, ont été acceptées, me semble-t-il, par l'ensemble des protagonistes. Il n'y a pas eu véritablement de débat sur ces prévisions, alors que je suis bien placé personnellement pour savoir qu'en 1999, quand moi-même j'avais publié mon propre rapport sur les retraites, il y avait eu à l'époque des controverses beaucoup plus fortes sur la pertinence de ces prévisions. Et la loi Fillon avait prévu un dispositif assez complexe et assez élaboré de pilotage avec des rendez-vous, un rendez-vous en 2008, un rendez-vous en 2012, un rendez-vous en 2016, puisque la loi Fillon était à horizon 2020, et des procédures assez complexes fondées sur le corps, d'une part, et sur un autre organisme qui s'appelait la Commission de garantie des retraites, tout ceci semblant assez bien pensé. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que le rendez-vous de 2008, je parle sous le contrôle de Dominique Libault, qui le cas échéant corrigera, mais le rendez-vous de 2008, me semble-t-il, a été considéré comme décevant, notamment par les partenaires sociaux, qui ont considéré qu'il ne s'était pas passé grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas eu de réunion. Les partenaires sociaux attendaient qu'un rendez-vous, un jour, on les réunisse. Il n'y a pas eu de réunion, véritablement. Et mis à part l'adaptation de la durée de cotisation pour bénéficier du taux plein en appliquant le principe de la loi Fillon jusqu'en 2012, mais à part ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Ensuite, la récession est arrivée, dégradation très forte des comptes des régimes de retraite. Et donc, le président de la République a ajouté un rendez-vous en 2010 qui n'était pas prévu dans la loi Fillon. Tout ceci donc étant assez anxiogène pour les individus et perturbant pour le débat social. Pour les individus, il faut voir que ça entraîne des comportements individuels quelquefois curieux, soit qui consistent à retarder la retraite, ce qui va plutôt dans le bon sens, mais le plus souvent conduisant à l'anticiper par crainte d'un durcissement des conditions de retraite. Et là, évidemment, c'est totalement contre-productif parce que ça va exactement en sens inverse de ce qui est visé. Comment faire mieux à l'avenir ? Eh bien, il faudrait que nous discutions du rôle du nouveau comité de pilotage des régimes de retraite. Là, je m'adresse surtout à Dominique Libault, qui a joué un rôle important dans sa genèse, puisque ce comité va fonctionner en parallèle au Conseil d'orientation des retraites et qui, évidemment, avec une composition qui est quasiment identique, il y a un enjeu à ce qu'il ne doublonne pas. Faut-il envisager une réforme systémique, puisque pour l'instant, la France n'a envisagé que des réformes paramétriques ? Comment tirer au mieux parti du rendez-vous de 2013, y compris, le cas échéant, en revenant sur des réformes paramétriques, ce que la loi n'interdit pas ? Et quel accompagnement faut-il envisager à la réforme des retraites ? Je pense notamment à la politique de l'emploi, puisque finalement, le meilleur indicateur du succès des réformes des retraites et des politiques de l'emploi, c'est l'augmentation des taux d'emploi des seniors. Merci.
Merci Jean-Michel Charpin. Peut-être deux petites précisions. Par réforme systémique du régime de retraite, il faut entendre que nous avons en France un régime par répartition, mais qu'il y a bien d'autres types de régimes de retraite, capitalisation, par points. Et donc une réforme systémique, si je comprends bien, c'est en fait se pencher sur toutes les autres formes de retraite possibles.
Oui, nous avons un système de retraite qui est d'une part par répartition et d'autre part par annuité. Et c'est le nombre d'annuités qui va finalement déterminer les droits à retraite. Et comme vous le dites, il y a d'autres systèmes envisageables qui peuvent, dans certains cas, être intéressants, notamment les régimes en points et les régimes dits en compte national, comme celui qui est appliqué en Suède et qui manifestement intéresse la CFDT, ce qui fait que je pense que Véronique Descac en parlera, ont des propriétés du point de vue du pilotage qui, à certains égards, peuvent être plus intéressantes que celles de notre système à nous. Or, on voit bien que le pilotage a été une des choses qui n'a pas bien fonctionné jusqu'à présent dans le système français.
Justement, je me tourne vers vous, Dominique Libaud. L'une des caractéristiques, par définition, des retraites, c'est qu'elles sont extrêmement, enfin, de l'équilibre du régime des retraites, c'est qu'il est extrêmement difficile à prévoir, puisqu'il dépend de la conjoncture. Pour preuve, vous citiez tout à l'heure, Jean-Michel Charpin, les prévisions du COR, hein, pour que les choses soient bien claires. Il y a trois scénarios envisagés à l'horizon 2050 pour le COR, selon que la conjoncture soit très bonne ou moyenne, on va dire, qui feront état d'un déficit entre 72 et 115 milliards d'euros. C'est vous dire à quel point il est difficile de prévoir l'évolution des retraites. Justement, Dominique Libaud, qu'est-ce qui a été prévu dans la réforme de 2010 pour piloter l'avenir et contrôler, éviter tous les dérapages?
Bonjour à tous, je vais essayer de répondre à cette question, mais enfin, tout en disant tout de suite, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel Charpin, c'est que de toute façon, toute réforme sur un sujet aussi complexe, aussi difficile, est forcément incomplète, à parfaire, et qu'on ne peut pas imaginer dans un tel sujet de régler par une baguette magique tous les sujets à un instant donné, tout simplement parce que le sujet du vieillissement de la population française, du vieillissement d'ailleurs de, pas seulement de la population française, mais des populations des pays développés, est un des, à mon avis, un des trois sujets majeurs auxquels nous sommes confrontés, avec, disons, la mondialisation, le développement durable, et ce phénomène absolument majeur de nos sociétés, qui est ce vieillissement qui interroge notre capacité à maintenir un système de redistribution, de protection sociale, qui a été imaginé à partir de la fin du XIXe siècle, qui s'est développé tout au cours du XXe siècle, qui, je crois, est une valeur fondamentale de notre société. Moi, enfin, évidemment, j'en suis convaincu, je suis directeur de la sécurité sociale, et mon rôle est d'essayer de pérenniser ce système, de penser effectivement sa capacité de le transmettre aux générations futures, et c'est évidemment un sujet extraordinairement compliqué. Et dans ce sujet du vieillissement de la population française, il y a le sujet des retraites, mais qui n'est qu'une des composantes de ce sujet du vieillissement. Et c'est ça la difficulté de l'appréhender, c'est que réussir à traiter le sujet de retraite, c'est réussir plus globalement à traiter le sujet du vieillissement actif, qui interroge beaucoup d'autres sujets que le sujet des retraites, et notamment le sujet de la relation de l'homme au travail, tout simplement, et aussi du fonctionnement du système de production. C'est pour ça que il faut être un peu humble devant ce sujet, parce que réussir un tel défi, on ne peut pas le concevoir technocratiquement, il interroge tous les acteurs de la société. En revanche, l'effort de faire partager cette complexité, d'essayer de faire comprendre ces enjeux, me semble absolument fondamental. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici. Alors, un sujet très complexe, avec des données démographiques que Jean-Michel Charpin a évoquées. Un habitant sur trois en France aujourd'hui, un habitant sur cinq a plus de 60 ans, un habitant sur trois en 2050 aura plus de 60 ans. Bon, ça, on peut sans arrêt reprendre ces données, elles sont quand même très très marquantes, et vous l'avez dit aussi en introduction, une échéance qui est venue plus vite que prévu du fait de la crise économique et financière, et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, 10% des pensions aujourd'hui en France sont déjà plus financées par le système de répartition. Alors vous évoquez le système de répartition, effectivement c'est fondamental de bien comprendre ça, c'est la base de notre contrat social retraite, c'est les cotisations des actifs d'aujourd'hui financent les retraites d'aujourd'hui. Pour faire simple, le 5 de chaque mois, on prélève l'argent dans les entreprises qui versent des cotisations salariales et patronales retraite, et le 8 du mois, trois jours après, elles sont versées aux retraités à travers des pensions de retraite. Voilà, l'argent est immédiatement recyclé, il part effectivement des actifs et des entreprises pour aller immédiatement chez les retraités. Donc c'est une sorte de gâteau, et pour reprendre l'image simple, effectivement, et donc un gâteau qui croît avec la croissance de l'économie, et puis il y a des parts, et le sujet c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de convives qui ont part au gâteau, et comment tenir des parts constantes et donner une sécurité aux retraités actuels et futurs, alors qu'effectivement il y a de plus en plus de retraités, c'est ça notre sujet. Et c'est un sujet complexe, et en même temps les paramètres du sujet ne sont pas si compliqués que ça, si j'ose dire. Et alors, au sein du Conseil d'orientation des retraites, dans lequel je siège avec Jean-Michel Charpin, depuis longtemps, de façon consensuelle, on dit il y a trois données fondamentales qui font l'équilibre d'un système de retraite par répartition. Les recettes qu'on met dans le système, combien on est prêt à mettre de recettes dans le système. Deuxièmement, le niveau des pensions. Troisième facteur, les conditions d'entrée en jouissance de la pension. C'est-à-dire à quelles conditions j'ai droit à une pension, c'est-à-dire les conditions d'âge, les conditions de durée de cotisation. Voilà, vous avez trois paramètres fondamentaux. Et c'est grosso modo autour de ces trois paramètres qu'il faut jouer. Il n'y en a pas beaucoup d'autres qu'on peut imaginer pour sauvegarder un système par répartition. Alors, où on en est pour imaginer l'avenir, qu'est-ce qu'apporte la réforme par rapport au passé, qu'est-ce qui reste encore à construire? C'est un peu ça la question. Comme l'a dit fort bien Jean-Michel Charpin, je crois qu'on ne peut pas parler de la réforme 2010 sans évoquer les réformes précédentes. Il l'a redit, la sécurité sociale, la retraite en France ne s'est pas construite d'un seul coup, comme quelquefois on le croit. D'abord, il y a un historique avant 1945, sans remonter donc au premier système de retraite créé par Colbert en 1673 pour les invalides de la marine, régime qui subsiste toujours et qui montre du reste l'attachement de la France et des Français au système historique de protection sociale. Mon bureau est place de Fontenoy, j'ai en face de moi l'établissement national des invalides de la marine, qui est l'héritier direct du régime créé par Colbert en 1673. Mais donc en 1945, évidemment, étape fondamentale avec l'idée de créer un régime par répartition. Un régime quand même très faiblement généreux en 1945, on sort de la libération, on a peu d'argent, on crée un plafond de la sécurité sociale, et puis on échoue du reste à faire un régime général, on l'appelle régime général, mais rapidement les travailleurs indépendants disent on ne veut pas en être, donc c'est pas un régime général, on dit qu'on va intégrer les régimes spéciaux. Du reste, nous, on se sert d'un instrument, les juristes le connaissent bien, qui s'appelle le Code de la Sécurité sociale, dans lequel tout est codifié. Vous ne trouvez pas les régimes spéciaux parce qu'on considère depuis 1945 qu'ils sont provisoires et qu'ils n'ont pas à être intégrés dans le Code de la Sécurité sociale parce que c'est une survivance provisoire depuis 1945, parce que l'idée en 1945 était de les intégrer. Évidemment, ils sont toujours là et avec beaucoup d'attention de la part des populations concernées à la pérennité de ces régimes spéciaux. Donc 45, régime par répartition, échec du régime général et puis une construction progressive avec des lois qui vont améliorer le système. Des lois très importantes dans les années 70. D'abord dans les années 60, il y a eu un rapport important du fondateur de la sécurité sociale, le fondateur administratif, celui qui a créé la direction de la sécurité sociale qui s'appelle Pierre Larocque, en 62, qui fait un grand rapport sur la vieillesse et qui dit la situation des personnes âgées est encore extrêmement dégradée dans notre pays. C'est à l'époque là qu'on rencontre le plus de pauvres. Pour beaucoup de gens dans les années 60, être âgé, c'est encore être pauvre. Et des lois vont améliorer ça, notamment des lois qui s'appellent les lois Boulin, les années 71-72, qui vont améliorer la situation et notamment aussi créer quelque chose qui aujourd'hui prend beaucoup d'importance, c'est-à-dire des droits spécifiques pour les femmes, avec notamment quelque chose qui s'appelle l'assurance vieillesse parent au foyer et qui permet de valider des trimestres pour les trimestres non pas passés au travail, mais les trimestres passés à l'éducation des enfants. Et c'est une des raisons qu'aujourd'hui, cet AVPF qui est monté en charge, puisque avec tout ceci, des droits nouveaux en retraite, ça prend effet très très lentement, parce qu'il faut des années et des années. C'est aujourd'hui ça qui permet aux femmes, peu à peu, d'avoir une durée d'assurance qui se rapproche de celle des hommes, avec évidemment le fait que, parallèlement, il y a une montée de l'activité professionnelle des femmes, naturellement. Voilà, donc c'est cette réforme, la réforme de 82, évidemment, très importante, emblématique, la retraite à 60 ans, et puis les réformes à partir de 93 qui essayent de travailler sur la pérennité des systèmes de retraite, avec donc l'allongement de la durée des cotisations dans un premier temps, à partir de 93, mais pour le seul secteur privé, un échec de Juppé en 95 qui veut l'intégrer au secteur public, et tout le monde se souvient sans doute des grèves massives de l'époque, en tout cas ceux qui étaient, comme il y a beaucoup de jeunes dans la salle, effectivement, c'est pour vous, c'est peut-être de l'histoire ancienne, mais enfin, ceux qui ont vécu ça se rappellent de ces grèves très, très, très fortes. 2003 Fillon, et aujourd'hui, les bornes d'âge. Pourquoi les bornes d'âge? Un mot avant de passer au futur. D'abord, on est dans un sujet financier très lourd, et il faut bien dire que seul relèvement de l'âge permet, dans les sujets dépenses, de se rapprocher de l'équilibre à horizon 2020. C'est le facteur qui permet aujourd'hui, combiné à l'allongement du durée de cotisation, mais qui était déjà programmé, de pouvoir rétablir l'équilibre des régimes de retraite par la maîtrise de la dépense. Deuxièmement, seule l'action sur l'âge peut permettre, mais c'est un des points dont on peut discuter, peut permettre de modifier ce qu'on appelle l'effet horizon sur l'emploi des seniors, parce que je disais que les retraites ne peuvent se construire sans une politique globale de vieillissement actif, et évidemment le pari fondamental du sujet des retraites et à la fois de l'allongement de la durée des cotisations et de l'âge, c'est est-ce que les gens auxquels on va demander de travailler un peu plus longtemps vont trouver effectivement du travail et vont trouver à s'employer. C'est ça tout l'enjeu, qu'ils puissent effectivement continuer à avoir un revenu de travail, continuer à produire, etc. C'est ça qui est évidemment l'enjeu et qui n'est pas mécanique. Personne ne peut croire que ce sera mécanique. Et donc, quels sont les facteurs qui permettent d'aller vers ceci? Jean-Michel Charpin l'a dit, on a déjà progressé plus qu'on ne le croit dans les périodes récentes, notamment sur les 55-59 ans, mais sur les 60-64 ans, il l'a dit, on est aujourd'hui à 17-18% aujourd'hui d'activité. Les Suédois sont à 64%, les Allemands à 43%. On est très éloigné sur cette tranche d'âge de ce qui se passe dans les autres pays européens. Et je pense fondamentalement que pour les entreprises, que pour la majorité des gens, il y a un effet horizon très... Voilà, à partir de 60 ans, on considère qu'effectivement, on ne doit plus être en activité, que c'est intégré dans les raisonnements, y compris des entreprises qui n'investissent plus sur les salariés à partir d'un certain âge. Voilà. D'où l'enjeu, effectivement, en jouant sur les bornes d'âge, à la fois de créer les conditions d'un rééquilibre financier des régimes et aussi de modifier la perception du salarié âgé dans l'économie. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Mais le premier sujet, c'est simplement ça. C'est ensuite, effectivement, va-t-on réussir ce défi? Va-t-on réussir? Et tout le sujet, les sujets tout à fait légitime évoqué à l'occasion de la réforme sur la pénibilité du travail, sur l'emploi des seniors, sur doivent maintenant être pris en charge. Et donc il y a un travail à faire pour que le système de redistribution puisse continuer à jouer son rôle sur le fonctionnement même de l'économie, du système de production. C'est un enjeu, à mon avis, majeur de notre société du XXIe siècle, de voir que si on veut maintenir un système de solidarité dans notre pays, on ne peut le faire qu'en travaillant sur les conditions mêmes du système de production, sur le rapport de l'homme au travail. Et c'est ça qui est un enjeu majeur, avant de penser même à une étape systémique des retraites, etc. Mais ça, je dirais, c'est vraiment absolument fondamental. Deuxième aspect. Réforme plus large des retraites, est-ce possible, est-ce nécessaire? Effectivement, d'ores et déjà, dans la loi, on pose des questions. Je dirais il y a trois questions fondamentales. Veut-on aller vers un régime universel? Aujourd'hui, nous avons des régimes extrêmement séparés, fruits de l'histoire sociale. C'est une des sources, disons, de différence, de disparité. J'en dirai pas plus, parce qu'il ne faut pas dire qu'un régime est plus favorable qu'un autre. En revanche, ça crée des difficultés. Et donc, une des questions qui va être posée, c'est veut-on aller vers un régime universel?
Le même pour tout le monde, hein, c'est ça, un régime universel, c'est le même?
C'est une des questions qui est posée par ceux, notamment, qui posent la réforme du systémique. Vous parliez d'Antoine Bozziaud tout à l'heure. Antoine Bozziaud, il a fait toute une réflexion avec Thomas Piketty en disant il faut aller vers une réforme systémique, il faut tout mettre à plat, tout ceci est beaucoup trop complexe, et il faut recréer un système global pour tout le monde. La question est posée. Je dis aussi tout de suite que, pour connaître un peu les positions des acteurs, elles sont assez diverses sur ce sujet. Il n'y a pas du tout d'unanimité sur un tel sujet, notamment chez les partenaires sociaux qui ont des positions assez différentes. Certains sont très attachés à l'histoire sociale de la France, à des systèmes professionnels, et d'autres sont beaucoup plus ouverts, mais madame en parlera peut-être, sur cette perspective. En tout cas, je dis, c'est une des questions. La deuxième question, c'est interroger qu'est-ce qu'on appelle un système de retraite juste. Cette question de la justice a beaucoup été posée à la question de la réforme. C'est quoi finalement un système juste? Et dans toutes les remarques et débats, je dirais, de façon un peu peut-être caricatural, mais il y a quand même deux idées un peu différentes qui émergent. Une idée qui va vous dire la justice en système de retraite, c'est finalement eh bien, que vous cotisez et qu'à cotisation égale, prestation égale, vous devez avoir un juste retour de vos cotisations identiques. Et je vais faire un peu moins, mais c'est grosso modo, en général, les gens qui pensent ça vont vers le système dit par points, en disant on va vous donner des points, vous cotisez, etc. Et donc c'est un système dit plutôt contributif, vous percevez à raison de vos contributions. Et grosso modo, enfin, quand on parle des vieux travailleurs, de ceux qui ont travaillé très jeunes, etc., c'est cette idée de contributivité qui est souvent mise en avant. Et puis, vous trouvez une autre idée qui n'est pas contradictoire, hein, je vais le dire aussi, évidemment, mais dire, attention, le système de retraite, il y a des gens qui ont eu des carrières hachées, il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, il y a des gens qui ont peu cotisé, et la fonction d'un système de retraite, c'est aussi d'assurer un niveau de vie minimal à des gens à l'âge de la retraite. C'est, disons, plus la vision solidarité. Eh bien, une des questions qui interroge un système de retraite juste, c'est quel équilibre on veut entre solidarité et contributivité, tout simplement. Voilà. Et dans une enveloppe financière qui n'est pas extensible. Donc, quels équilibres, ça veut dire à qui perd, qui gagne, etc., par rapport au système actuel. Voilà une deuxième question importante. Et troisième question importante, quelles règles de pilotage, celles que vous me posiez, quelles règles de pilotage pour l'avenir? L'avenir est incertain, la croissance est incertaine et c'est un facteur important sur les ressources du système. Les comportements des entreprises, etc., vis-à-vis des seniors, on ne sait pas non plus. Donc, quelles règles de pilotage veut-on? Et je partage aussi un peu l'avis de Jean-Michel Charpin, je ne suis pas sûr que notre pilotage dans le passé était complètement toujours satisfaisant. Alors, dernier élément, comment améliorer ce pilotage? Le COR a joué un rôle très utile, le Conseil d'orientation des retraites, diagnostic partagé. C'est vrai que je pense que la limite du COR, c'est quand c'était un dialogue, si vous voulez, entre experts, partenaires sociaux, administration, le politique n'y était pas, et ce n'est pas un lieu de proposition politique, de réforme, de discussion entre partenaires sociaux et politiques. Ça se passait uniquement avec des rendez-vous tous les 5 ans, et si j'ose dire, le sujet retraite, il était un peu évacué entre-temps, sur le plan politique, on en parle peu. Là, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est combien les médias couvrent ce sujet, je veux dire, tout le nombre d'articles, etc. Mais si vous réfléchissez, entre 2003 et 2007, le nombre d'articles de pédagogie sur la retraite, très très faible. Et moi, je crois que ce sujet doit vivre un peu en permanence si on veut mûrir le sujet et arriver à des solutions un peu moins conflictuelles que celles qu'on vient d'avoir. Donc voilà, donc je crois effectivement à ce dialogue, et c'est pour ça qu'on crée un comité de pilotage, en espérant effectivement qu'il nous permettra des solutions plus apaisées pour construire cette protection sociale durable que je crois sincèrement la plupart appellent de leur vœu.
Merci Dominique Libaud. Véronique Descaques, pour rester sur la métaphore culinaire employée par M. Libaud, on a l'impression que maintenant le plat de résistance, en quelque sorte, pourrait être en 2013, pour bien rappeler ce qui s'est passé lors des dernières heures de discussion parlementaire. Le gouvernement a introduit l'idée qu'en 2013, une nouvelle réflexion sera menée sur une réforme systémique. Réflexion qui peut aussi engager qui peut toucher à d'autres paramètres, notamment Dominique Libaud parlait, le choix qui a été fait en 2010 est celui de l'allongement de la borne d'âge, hein, donc le relèvement des deux bornes, 60 à 62 ans pour la borne basse et 65 à 67 pour la borne haute, mais il y avait aussi d'autres possibilités, notamment un allongement de la durée de cotisation, auquel la CFDT est très attachée. Vous, comment voyez-vous les choses? 2013, c'était un petit peu ce que vous réclamiez, du moins vous réclamiez une réflexion systémique. Est-ce que pour vous, ce n'est qu'un début, en fait, 2010?
C'est certainement un début, bien sûr. Pourquoi? Parce que je crois que les deux intervenants précédents ont bien expliqué que cette réforme de 2010, elle s'est faite un petit peu à contre-courant du calendrier initial qui était prévu, et parce que la crise financière est venue bousculer les équilibres financiers de notre régime de retraite. Donc en fait, la réforme de 2010, elle n'est pour nous qu'une réforme paramétrique, enfin pour nous, elle est à l'évidence pour tout le monde, une réforme paramétrique, qui ne pose pas les questions qu'il convient de poser, et que d'ailleurs M. Libaud vient très bien de poser concernant une réforme des retraites qui serait pérennes, qui sont des questions de société. Et c'est d'ailleurs l'angle sous lequel la CFDT a abordé ce débat depuis le début, en disant on ne peut réformer de façon équitable, mais aussi pérenne, un système de retraite qui est un système aussi structurant pour notre vie en société, qu'en posant un certain nombre de choix de société autour de la solidarité intergénérationnelle. Donc c'est la question de la répartition, bien entendu, comme l'a expliqué M. Libault, mais c'est aussi la question de la dette qu'on laisse aux générations futures. Ça fait aussi partie de la solidarité intergénérationnelle, pardon. Mais c'est aussi la question du travail et de son contenu, en particulier tous les thèmes qui sont revenus dans le débat autour de la pénibilité. C'est aussi la question de l'organisation du travail, c'est-à-dire le temps de travail tout au long de la vie, le temps de formation. Est-ce qu'il est bien normal que je travaille comme un forcené de 25 à 50 ans, en résumé, et puis que dans les autres périodes de ma vie, j'ai du mal à rentrer dans l'emploi, ou je ne puisse pas, au contraire, faire des choix d'arrêter pour faire de la formation, pour faire autre chose, pour m'occuper de mes enfants, etc. Voilà. Donc la question de l'organisation du travail est posée. La question de l'emploi, évidemment, est posée, l'accès à l'emploi pour les jeunes, l'emploi des seniors, la question de la précarité qui se développe, la question des activités réduites, la question de la féminisation du travail et des moyens qu'on met à disposition des femmes en termes de services, d'accompagnement de la petite enfance, etc., pour leur permettre d'accéder au travail. Donc toutes ces questions sont posées par un projet de réforme aussi important que celui des retraites. Et elles n'ont pas été abordées, elles ont été évacuées dans le débat de 2010. Elles ont été trop rapidement évacuées dans le débat de 2010 parce qu'on a choisi de faire une réforme qui portait uniquement sur les paramètres, les trois paramètres que M. Libault a cités, parce qu'il fallait, en quelque sorte dans l'urgence, rétablir les équilibres économiques. Donc la réforme n'apporte pas de réponse à la réforme d'aujourd'hui, qui a été donc promulguée cette nuit, n'apporte pas de réponse aux questions qui sont posées en termes de choix de société. Mais M. Libault l'a dit aussi, d'ailleurs, il n'y a pas que la question des retraites qui doit être posée, mais la question du pacte social, je dirais. Hein. C'est tout le pacte social issu de l'après-guerre et issu du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire en face des défis qui sont posés par les enjeux démographiques qui ont été rappelés et que, pour ce qui concerne la CFDT, on n'a jamais nié, on en a conscience depuis longtemps. Et vous avez les uns et les autres rappelé les éléments de la réforme 2003 dans laquelle on a été partie prenante, c'est bien parce qu'on avait pris conscience qu'il y avait là des enjeux importants. Ils sont posés aussi dans les mêmes termes pour les questions de santé, pour les questions de dépendance. Et la question finalement qui est posée, c'est celle des ressources que la société, que nous citoyens, nous sommes prêts à mutualiser, à mettre en commun pour que ce pacte social puisse perdurer dans le temps, mais perdurer en prenant en compte les nouveaux contextes. Alors les nouveaux contextes, vous l'avez dit, ils sont démographiques. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que des mauvaises nouvelles, c'est le vieillissement de la population, mais c'est aussi l'allongement de l'espérance de vie, et c'est pour ce qui concerne la France, des natalités, un taux de natalité qui continue à être assez dynamique. C'est des contraintes économiques, vous l'avez dit, la crise et probablement des perspectives de croissance qui sont assez faibles pour l'avenir, c'est l'équilibre des comptes. Mais c'est aussi des opportunités, hein, l'espérance de vie, on l'a dit, le travail des femmes, et puis des défis importants qui ont été assez peu évoqués, mais des évolutions sociologiques importantes et lourdes autour de l'emploi, de la cellule familiale, en gros, une mobilité, que ce soit encore une fois dans l'emploi, dans les parcours professionnels, dans la géographie, une mobilité aussi de la cellule familiale qui n'existait pas au moment où le pacte social a été fondé après la guerre et qui sont devenus des enjeux aujourd'hui auxquels il faut répondre. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, mais je constate qu'on est assez unanime à dire la même chose, c'est que la réforme n'apporte pas de réponse à ces enjeux essentiels. De surcroît, l'analyse que porte la CFDT sur cette réforme-là, c'est qu'elle est à la fois injuste et inefficace. Alors injuste, pourquoi ? Parce que le besoin de financement qui est, vous l'avez dit, à l'horizon 2020 d'un peu plus de 40 milliards, il pèse essentiellement aujourd'hui sur les salariés, et le raisonnement par l'âge fait qu'il pèse sur les salariés qui ont des parcours les plus difficiles, les plus précaires, les plus fragiles. Donc 20 milliards, le financement sur les 40 milliards, 20 milliards pèsent sur, proviennent du report des deux bornes d'âge, 62-67. Or, le report des deux bornes d'âge, on a vu que ses conséquences, c'est que ça pénalise d'abord ceux qui ont commencé à travailler jeunes, que souvent ceux qui ont commencé à travailler jeunes, ce sont les gens donc, qui ont le moins de qualifications, et que ce sont souvent aussi ceux qu'on retrouve dans les populations qui ont les métiers les plus pénibles. Métiers les plus pénibles, alors qu'on a un peu pris en compte, qu'on a commencé à prendre en compte en 2003, qui sont eux cette fois pénalisés de façon un peu indistincte par la réforme, puisque pour eux aussi on repousse les deux bornes d'âge. Et donc en fait on voit que ce sont ceux qui ont commencé à travailler jeunes, ceux qui ont les métiers les plus pénibles, qui financent globalement l'essentiel de l'effort qui est demandé aujourd'hui. Alors vous dites le report des bornes d'âge a une efficacité économique immédiate, en particulier parce que ça crée un effet horizon et qu'on se dit, voilà, c'est plus 60 ans qu'on a dans la tête, c'est 62. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Je pense que le raisonnement en durée peut aussi apporter une réponse à cette question horizon. Et d'ailleurs, on l'a vu, depuis 2003, l'âge effectif de départ en retraite a évolué. Il a dépassé maintenant les 61 ans. Le deuxième problème, c'est que cet effet horizon tient beaucoup au comportement des entreprises. Donc nous, on pense qu'il aurait fallu déjà entamer des négociations sur la question de l'emploi des seniors plutôt que de le faire après. Il aurait fallu probablement commencer par là. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'échéance de 2008 dont vous avez parlé, Monsieur Charpin, a été un échec. C'est qu'on avait constaté en 2008 qu'on n'avait pas réglé le problème de l'emploi des seniors et que tant qu'on n'a pas réglé ce problème, reporter les bornes d'âge, en fait, ça a pour conséquence principale de reporter le coût dont on parle du régime des retraites vers le régime de l'assurance chômage. Donc, effectivement, le problème le plus prégnant dans le problème du financement des retraites, c'est de trouver une solution à cette question de l'emploi et en particulier à la question de l'emploi des seniors. Le deuxième effet injuste qu'on relève, donc en dehors des gens qui ont des carrières longues et qui ont des carrières pénibles, c'est que le monde du travail s'est beaucoup précarisé, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des carrières de plus en plus hachées, de plus en plus précaires. C'est le cas en particulier des femmes qui sont le plus concernées par le temps partiel imposé, par les périodes de chômage et par les activités réduites. Et que le recul des bornes d'âge, il va amener principalement ces populations-là à travailler jusqu'à 67 ans. Donc, encore une fois, ce sont donc à la fois les plus fragiles et les plus exposés qui vont porter l'essentiel du coût de la réforme. Et on a été chercher des ressources fiscales pour financer les solidarités dont M. Dibault a parlé, qui sont assez faibles. Les recettes fiscales qu'on a été chercher, elles sont de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, alors qu'on a vu l'enjeu est de 40 milliards d'euros. Donc, ça veut dire que pour répondre aux déficits qui sont liés pour la moitié à la crise actuelle et aux problèmes économiques et pour répondre aux enjeux de solidarité et de justice sociale, on a été chercher des recettes fiscales extrêmement minimes et qu'on a été chercher des recettes contributives sur les salariés, on a été les chercher essentiellement envers les plus fragiles. Ça, c'est 20 milliards, c'est le gros du financement. L'autre partie du financement qui, pour nous, est particulièrement inquiétante, c'est qu'on a été le chercher dans une réserve qui s'appelle le fonds de réserve des retraites. Ce fonds de réserve des retraites, il a été créé pour pouvoir justement passer le cap démographique difficile dont M. Charpin a parlé tout à l'heure, qui est la période 2020-2035. On sait que le cap démographique important, il va être là. Et donc, on avait un petit peu provisionné, on avait fait des réserves pour passer ce cap difficile, et on ambitionnait d'avoir 100 à 150 milliards de réserves pour passer ce cap difficile. Or, la réforme, elle va chercher les 20 milliards qui lui manquent dans ce fonds de réserve des retraites en le ponctionnant. Ce qui fait que quand on va arriver au cap difficile en 2020, eh bien, on n'aura plus cette réserve qui était prévue pour ça. Donc c'est le deuxième gros reproche que fait la CFDT à cette réforme, c'est qu'elle est de surcroît inefficace puisque elle ne prévoit le financement qu'à court terme et que le problème démographique de 2020 il reste entier et qu'il faudra se reposer la question aussi pour cette question-là, pas seulement parce que les enjeux sociétaux dont on a parlé avant et les enjeux autour du travail ne sont pas réglés. Alors, le débat reste entier, et à notre avis, le débat du financement des retraites, comme le débat du financement de la, de la sécurité sociale, enfin de la protection sociale dans son ensemble, comme même le débat autour de la justice sociale, se reposeront forcément pour 2013 et seront, à mon avis, à notre avis, un enjeu extrêmement important dans les échéances électorales qui vont arriver d'ici là, c'est l'enjeu de la redistribution, l'enjeu de la solidarité, l'enjeu de tout ce qu'on se donne comme objectif pour reconstruire notre pacte social. Dans ce contexte-là, je pense que, comme l'a dit M. Libault, il faut être humble, et la CFDT, on dit beaucoup, la CFDT, elle est pour une réforme systémique. La CFDT n'a pas de projet clé en main pour une recette magique qui réglerait le problème des retraites. En revanche, elle a quelques objectifs, et je voudrais rappeler, peut-être, je voudrais juste insister sur 7 points qui sont des objectifs importants pour nous, pour une réforme des retraites qui serait plus juste. Le premier point, c'est celui de pérenniser la répartition. Vous avez indiqué une réforme systémique, c'est une réforme qui chamboulerait tout, et en particulier qui pourrait remettre en cause la répartition. Non, la réforme que souhaite la CFDT, elle vise au contraire à pérenniser la répartition, à dire que la répartition, c'est le système qui nous semble à la fois le plus solidaire et le plus efficace, le plus solidaire entre générations. Monsieur Libault a bien expliqué pourquoi. La meilleure garantie aussi pour nous concernant les fluctuations de l'économie, on vient de voir, la crise qu'on vient de connaître, elle a pénalisé beaucoup les régimes en capitalisation parce qu'elle est plus soumise évidemment aux aléas du marché. Les régimes en répartition, ce qui fait leur stabilité, c'est l'emploi, pour beaucoup on a dit, et l'emploi, les variations de l'emploi finalement, même en cas de crise violente comme on vient de vivre, elles sont moins violentes que les évolutions du marché. Donc, nous, pour nous, c'est un régime plus solidaire et un régime plus sûr. C'est la raison pour laquelle on est très attaché à maintenir ce régime par répartition. Le deuxième principe, c'est celui que M. Libault a évoqué, celui de l'universalité. Nous, on pense qu'effectivement, l'ambition issue de l'après-guerre, c'est effectivement de mettre en place un régime qui soit universel, auquel tout le monde puisse accéder. Et d'ailleurs, c'est aussi un des principes fondamentaux de la répartition, c'est-à-dire que la répartition, elle ne fonctionne que dans des régimes le plus large possible, voire des régimes universels. Un régime professionnel, sur un champ étroit, il a du mal à fonctionner en répartition, parce qu'on voit bien que dans une profession, les effectifs ils subissent des aléas qui font que on a du mal à assurer sa stabilité dans le temps. Donc, sur la question des régimes spéciaux, je voudrais quand même m'arrêter un instant pour dire un mot. Nous pensons effectivement qu'il faut aller vers l'unification des régimes, ce qui veut dire vers la disparition des régimes spéciaux, mais pas sans tenir compte des contraintes professionnelles particulières. C'est là que vient se placer aussi tout le débat sur la pénibilité. S'il y a un régime spécial à la SNCF, par exemple, c'est pas seulement le refus de la sécurité sociale en 45, c'est aussi parce que ce sont des métiers qui avaient des contraintes d'exercice particulières. Et donc, tant qu'on n'aura pas accepté d'aborder cette question de la pénibilité de certaines professions, alors je ne dis pas que les pénibilités existent toujours de la même manière maintenant, mais tant qu'on n'aura pas accepté de régler ces difficultés qui sont liées à certaines professions au travers de règles qu'on mettra en place pour tout le monde, pour l'interprofessionnel, eh bien on aura du mal à aller vers l'unification des régimes, qui est pourtant donc un des objectifs que nous voulons poursuivre. Alors je vais très vite, parce que je crois que je suis un peu en retard, sur les autres objectifs. Les autres objectifs sont de donner des possibilités de choix, c'est-à-dire donc prévoir un système qui garantisse à tous une retraite convenable, mais en laissant la possibilité à chacun, en fonction de l'hétérogénéité de son parcours professionnel, de sa situation personnelle ou familiale, d'avoir des possibilités de choix. C'est aussi l'esprit de la réforme de 2003, ce qu'a dit M. Charpin tout à l'heure, avec un système de décote et de surcote qui permet d'opérer des choix. C'est évidemment de corriger les inégalités avec un financement qui vienne de l'impôt plutôt que des cotisations. Donc, pour nous, si vous voulez, le régime doit être essentiellement un régime basé sur les revenus, puisqu'il prévoit des revenus de remplacement, donc financés par des cotisations, mais il doit prévoir aussi la mise en place d'un certain nombre de mécanismes de solidarité, et cela financé par l'impôt, d'où la nécessité de rechercher des recettes fiscales. Et ces mécanismes de solidarité, c'est pour les bas salaires. La CFDT demande un minimum de 85% du SMIC comme retraite de remplacement. C'est pour compenser la précarité dans les carrières accidentées. C'est pour compenser les gens qui ont commencé à travailler tôt. C'est pour compenser la situation des femmes et les inégalités qu'ont subi les femmes dans leur carrière, etc. Et puis enfin, donc je l'ai dit, renforcer les solidarités. Donc je crois que j'ai dit, en fait, je les ai un peu mélangés, mais l'ensemble des points, c'est ça, renforcer les solidarités, combiner la dimension donc contributive, c'est-à-dire revenu de remplacement, et la dimension distributive, donc fiscalité pour financer la solidarité, corriger les inégalités et donner aux gens la possibilité d'avoir des choix. C'est un peu autour de ça que se construit le choix de société qu'on peut mettre en œuvre autour de cette réforme des retraites.
Merci beaucoup, Véronique Descraques.